c'est quoi ça? Une canette de bière. Wesh! Oh, une pagaie cassée. Maman, maman, vite, viens voir.
Sur nos voies navigables, un décès sur trois est causé par la navigation de plaisance avec les capacités affaiblies. Ne naviguez jamais si vos capacités sont affaiblies. Un message de MAD Canada. Pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes.
Andréane Desvals à l'animation de Chérie J'arrive qui commence sur les ondes de Chiz 94.3 en ce beau jeudi 11 août, veille de la journée où on achète un livre québécois. Et j'ai le bonheur d'être accompagnée en studio par cette charmante collègue de Choc qui nous est tout droit venue de Montréal. Bonjour Estelle!
Allô!
Alors, émission spéciale en collaboration avec nos amis de Montréal. Ça me fait très plaisir d'être avec toi pour l'émission. Aujourd'hui, on va jaser de la programmation de la fête arc-en-ciel qui vient tout juste d'être dévoilée, fin de l'embargo dans les dernières secondes. Alors, ça va nous faire plaisir d'en jaser avec la directrice générale vers 17h15. D'ici là, on jase coups de cœur musicaux, bonnes nouvelles de Québec. Et Alex Télamarche nous rejoint à 17h pour ses livres coups de cœur des vacances. Donc, Alex qui nous rejoint fréquemment les jeudis pour nous parler de lecture. Ça nous fera bien plaisir qu'il soit de retour avec nous vers 17h. C'est Chérie J'arrive qui commence, la gang. C'est parti! Et Estelle?
Oui?
Qu'est-ce que tu fais à Chiz ce soir?
Moi, je suis directrice musicale de Choc.ca. C'est ça mon rôle. J'anime également l'émission Le Palmarès les mercredis à 15h. Et je suis comme en vacances. Puis j'ai décidé de passer mes vacances à Québec. Il faut croire que cet amour de la radio n'est jamais bien loin parce que finalement, j'ai proposé, j'étais comme... Oh.
T'inquiète, là.
Voilà, après avoir passé beaucoup de temps ensemble, on a fait une émission ensemble à Tadoussac.
Oui.
Collaboration entre Choc et Chiz. On s'est également croisés pendant le Frima à Val-d'Or. Donc, j'avais envie de venir te voir, entre autres, et de voir d'autres amis de la ville de Québec. Et voilà qu'à un moment donné, j'étais comme, ben tant que ça, je pourrais venir faire une chronique. Puis finalement, ben ça s'est transformé en co-animation de l'émission. Moi-même qui a déjà été sur les ondes de Chiz à quelques reprises, entre autres parce que l'hiver dernier, avec
Félix, mon prédécesseur.
Voilà, voilà, les vendredis, on s'échangeait des chroniques. Il venait faire une chronique avec moi au Palmarès et moi, j'en faisais une tout de suite après à l'émission Chérie, j'arrive, justement. Et fut une époque très lointaine, à l'été 2013, où j'ai animé à peu près 6 épisodes de l'émission La Couffaine avec Émile Dubé. Et après ça, j'ai commencé à animer une émission qui s'appelait Ma tasse de thé, qui durait donc 2013-2014. J'ai fait ça pendant un an, où je parlais du meilleur de la musique des îles britanniques. Et l'émission s'est terminée lorsque j'ai été aux îles britanniques. Finalement, je suis parti un an en Écosse.
C'était l'objectif.
Ben voilà, finalement, je me suis retrouvé à l'UQAM et j'ai recommencé cette émission-là à Choc, où j'ai fait une centaine d'épisodes. Avant de me promener, j'ai fait des choses, j'ai fait mon bac en journalisme, j'ai écrit dans plein de médias, j'ai parlé dans plein de médias, et me voici en ce moment de retour de façon physique dans les studios de Chiz qui ont changé juste un peu, mettons, depuis 2014.
Vrai. Et nous aurons l'occasion de reparler de tes multiples expériences dans tous ces médias vers 16h45. Donc, on va profiter de ta présence pour faire un petit topo de ton parcours. Alors, pour les gens de Québec qui se disaient « Oh, mais cette voix m'est familière », et oui, ben vous l'avez entendu le chroniquer cet hiver dans le cadre de Chérie, j'arrive avec Félix. Estelle, j'ai envie de lancer l'émission en musique avec une pièce de qualité motel parce que... La programmation de Saint-Roch Expérience est sortie aujourd'hui. Saint-Roch XP qui est là depuis 2016, qui aura lieu cette année du 15 au 17 septembre. C'est un événement urbain qui est là autour de la culture, de la musique pour célébrer cette vie-là culturelle qui est super vivante à Saint-Roch. C'est aussi un événement de cuisine. Et pour ce qui est de la programmation payante, ben là, les shows vont avoir lieu du côté de l'Impérial. Il y a quand même pas mal de shows gratuits qui n'ont pas encore été annoncés pour le moment. Mais les gens qui souhaitent des billets, que ce soit pour Gros Money Airborne ou encore Qualité Motel, c'est déjà disponible sur le point de vente. Je ne peux pas m'empêcher de souligner que la programmation payante est somme toute masculine, n'est-ce pas? Donc, on attend de voir avec impatience ce qui en sera pour les shows gratuits. On espère quand même que Saint-Roch Expérience a pensé aussi aux filles de Québec qui font de la musique qui a de l'allure.
Il y a des très bonnes filles à Québec, des très bonnes personnes non binaires aussi qui font de la musique à Québec. Profitez-en, sinon votre cours sont bonnes. Puis c'est ça.
Ça n'empêche à rien que moi, je vais aller faire la grouillade sur celui front de Qualité Motel. Et c'est avec cette pièce-là qu'on ouvre l'émission de Chérie, j'arrive.
Yeah. 89 sur le dashboard, on flash sur Saint-Laurent. Je parle pas du boulevard, je parle du motherfucking fleuve, man. Tout l'équipage en deck, Lil Billy, double L, let's go. Rien à foutre d'un yard en le vent dans les voiles. Pas qui part Poseidon, nous chavirer, essaye donc. On va répondre comme Frontenac. Petit snack pour nos canons, mange une claque. S'il faut, on sort le Zodiac puis les canons. Boy, boy, on fly avec le vent de travail. On voit tous les nœuds sur la corde. Pit stop, pick up les belly en Nouvelle-Écosse. Les bateaux dans la baie, le watch et faire des donuts. Nos six chiens disent qu'on n'est pas les fausses nuts. Let's go! Par la voile d'en avant, yeah, 3 mois sur mon cerveau. J'suis parti genre 23 mois sur mon cerveau. J'gueule, on part ma voix dans le vent. Même quand le ciel est gris comme mon cerveau, j'catch les waves comme un cell phone. Bien loin des bancs d'école, ou bien du son des clubs. On est en tête du vent des clubs. On fait ce sans éclat comme Alexandre à Pékin. J'vois l'horizon, je bégaye devant l'immensité. Cash, j'en oublie toutes mes séquelles. Ah yeah, j'suis gone, pis j'suis pas quand j'suis back, man. La lumière des phares me fait sentir comme Batman. Qui se passe des deux bords, moi j'en ai rien à battre, man. Puis même quand ça tombe, ben solide sur mes Pac-Man.
Si les fronts, ça va tout en bon. You're like a spare part of the month. Si les fronts, ça va tout en bon. Sur mon gros bateau, our feel unstoppable.
Peut-être qu'un long fleuve tranquille. Mais life ça fait comme rien d'autre qu'une piscine à vague. Je vois la terre disparaître, puis je sais qu'elle va manquer. Mais y'a aucun regret depuis que j'ai hissé le flag. Et je suis la star de la marina. Pull up comme Link dans le water temple avec mon ocarina. Harponne les langoustines, et ça c'est la routine. Mais chaque jour un nouveau monde quand je mets les pieds sur le pont.
Flou sailboat à la mi-temps de la baie. Me demande que je vois la baie aussi l'autre côté. Avant les plans douceurs. Ah bon, monsieur Fade, des fake can, des gros bras et puis des protein shakes. Nous occupons d'un beau petit pontoon qui s'obéit. J'en fais de voir des tracks qui frottent des offres sur des cachets. Tous les restes d'une porte est gris cassé. Ha ha, t'es qui devra avec ce jet d'une miette, moi un fricassé.
Fricassé pour nous autres, ça veut dire comme être kind of burnt out ou des fois high ou sous, juste comme generally comme f***ed up, I guess, dans la tête. Le dernier petit bout de verse en fait dire comme we make the best tracks, all you little pontoon boat rider losers font des whack tracks, so I guess c'est comme peut-être que vous devriez être moins f***ed up, mes amis, that's what it means.
C'était sur les fronts de Qualité Motel sur les ondes de Schiste 94.3. C'est l'émission Chérie, j'arrive qui est en onde avec vous jusqu'à 17h30. Et je vous rappelle que notre invitée spéciale, Estelle, tout droit sortie de choc, est avec moi à la co-animation pour la journée. Estelle qui est en vacances-ish à Québec, on va dire, parce qu'elle fait quand même de la radio, hein, même si elle est en vacances. Son amour pour la radio ne prend pas de vacances.
Mais c'est bénévole en ce moment. Moi, je suis ici pour le plaisir seulement, tu sais.
Je devais faire ce jeu de mots, oui. Et nous en avons du plaisir en studio.
Absolument. C'est le party ici, mesdames et messieurs.
Je pense que je devrais demander à Gabriel de me filmer pendant les chansons. Généralement, je me dandine derrière la console.
Mais tu vois, à Choc, nous, on a des caméras web qui font en sorte qu'on a des live Facebook.
C'est vrai. Êtes-vous toujours live pendant les émissions?
Ça dépend comment on feel.
OK.
Mais moi, habituellement, je feel mettre les caméras. Je trouve ça plus intéressant. Puis j'aime ça un peu bouger, danser et chanter les paroles des chansons. Parce que c'est moi qui ai choisi, c'est moi la directrice musicale. Fait que tout ce qu'ils jouent, c'est mon vibe. Un ouais. peu, t'sais.
Est-ce que les gens te parlent de ce qu'ils voient généralement? Est-ce que ça bonifie un peu leur expérience radio?
Je le sais pas.
OK, t'as pas de retour du tout là-dessus.
Ouais, souvent, les gens qui commentent, c'est genre déjà mes amis. Dans ce que les autres font juste... Il y a peut-être quelque chose un peu de voyeurisme aussi au travers de tout ça, tu sais, de juste voir des gens faire la radio, puis danser, puis tu regardes, tu dis rien, tu fais comme si, tu sais, tu restes un peu loin, mais tu regardes.
Mm-hmm. OK, je serais curieuse de voir ce que ça, comment moi ça changerait ma façon de faire de la radio si je savais que j'étais diffusée aussi visuellement en direct. Est-ce que tu as plus de réserves?
Absolument pas.
Absolument pas. Non, c'est sûr.
J'ai assez d'expérience, je pense que ça fait en sorte que je sais ce que je fais.
Mm-hmm.
Ça me dérange pas. Après ça, je sais que je suis absolument adorable aussi quand je danse. Fait que c'est peut-être un plus pour les gens qui écoutent.
T'es adorable quand tu danses. J'ai bon, j'adore ça. Je voulais saluer nos amis de la Société des loisirs parce que Chiz a un partenariat avec la SDL. D'ailleurs, notre toute nouvelle marchandise, pleine de belles couleurs, spéciale 25 ans, est au dépôt du côté de la Société des loisirs. Alors, si vous allez vous acheter un vinyle, vous pouvez repartir avec une casquette de Chiz en même temps. N'est-ce pas merveilleux? Et si jamais vous passez par les studios du côté de l'Université Laval, notre marchandise est aussi en vente ici quand nous y sommes, ce qui est le cas les journées d'émission. Alors n'hésitez pas à passer vous procurer un très beau chandail manche longue Chiz. Pourquoi pas
beaux,
pendant l'émission?
Hein? Vos chandails manche longue, je les ai vus, sont absolument incroyables.
J'aime beaucoup le blanc avec le très beau motif un peu course automobile. Je sais pas trop comment le décrire. C'est un de mes préférés.
Il est excellent.
Uh-huh. Je l'ai pas apporté tout à l'heure, mon chat dormait dessus. J'ai donc apporté le marine. Voilà. Ça, c'était le petit moment vie personnelle de votre animatrice.
La capsule mode est tendance.
Capsule mode est tendance, oui. Et je voulais saluer nos amis de la SDL également parce qu'on a une collaboration. Parfois, on fait des émissions spéciales en direct de la Société des loisirs. Et ce sera le cas le 24 août prochain. La SDL l'a annoncé aujourd'hui en grande pompe sur leur page Facebook. Pop-up avec Gabriel Bouchard qui va sortir son album le 26. Donc, on aura la chance de l'entendre en perfo acoustique live 2 jours avant la sortie de cet album.
Toi, tu l'appelles Gabriel Bouchard?
C'est rare, c'est la première fois que je dis son nom complet.
Parce que son nom d'artiste, c'est Gab Bouchard. C'est comme une personne qui serait à base de surnoms avec tout le monde, en fait. Je pense que Gab Bouchard est proche de littéralement toutes les personnes qu'il rencontre et c'est pourquoi il utilise le nom Gab. Bouchard et pas... Tu sais, c'est pas Gabriel. Tu s'appelles Gabriel, non. Il ne se revire pas. T'sais.
C'est vrai. OK, bon, alors j'assume cette proximité. Gab Bouchard, le 24 août,
voilà.
Pop-up.
Ou peut-être qu'au contraire, avec seulement les gens les plus proches, ils utilisent Gabriel.
Ah, c'est dans l'intimité. Ça. Sait-on jamais. Voilà.
On y demandera le 24 août.
Alors, on vous invite à venir assister à cette émission spéciale qui sera diffusée en direct de la SDL. C'est le mercredi 24 août que ça se passe pour entendre peut-être qui c'est une pièce en primeur, une toute nouvelle chanson, entrevue avec Gabriel et je lui réserve quelques surprises. Alors, c'est donc dire que je vous réserve aussi quelques surprises. Soyez là avec nous. Et d'ici là, la Société des loisirs est en expansion et là, ils ont besoin d'un ou une opératrice de presse à vinyle. J'en profite pour le mentionner ainsi subtilement. Donc, si le milieu de la presse à vinyle vous intéresse, ben c'est le moment d'aller porter votre CV hein, à la Société des loisirs, un milieu de travail amical. Vous pourriez parfois assister aux émissions en direct de Chiz. On va continuer en musique, Estelle, avant que tu nous reviennes avec un album coup de cœur de ton été.
Oui.
Peux-tu m'en dire un peu plus ou je lance la pièce, mais on dit rien?
Je vais dire un peu plus, mais juste un peu. C'est un groupe qui est très difficile à décrire, mais j'aime utiliser les termes noise, post-punk, saxophone pour décrire ce groupe-là. Puis j'en parle un peu plus tantôt.
C'est d'ailleurs comme ça que tu as réussi à piquer ma curiosité hier en me le présentant ainsi. On s'offre donc la pièce Risky Behavior et on parle un peu plus du band après la chanson. Vous êtes toujours à l'écoute de Chiz 94.3. Cette fin de chanson était mimée par Estelle. Oui. C'est pourquoi vous ne l'avez pas entendue en entier.
D'où l'importance des caméras en studio. Moi, je me suis donné à plein. J'ai la sueur qui me dégouline sur le corps au complet alors que je performais. Parce qu'on arrivait en plus, évidemment, au climax de la chanson.
De cette chanson, oui.
Voilà. Parce que j'ai été quand même gentil. Je vous ai parlé de noise post-punk saxophone, mais j'ai choisi la chanson un peu plus douce pour vous introduire, parce que le reste de l'album, mon Dieu, ça vache quand même bien. Duo australien, originaire de Sydney, qui s'appelle Party Dozen, qui fait paraître son troisième album, The Real Work.
Oh.
Le vrai travail, là, la vraie job. Là,
OK, cet avant, album-là. C'était pas la vraie musique.
Avant, c'était pas de la vraie musique, en fait. C'est juste des albums de mimes, là aussi. Party Dozen, donc, c'est leur troisième disque, qui est paru le 8 juillet dernier. C'est un duo composé de Kirsty Tickle, qui joue du saxophone et qui, des fois, chante. J'ai écrit « voix », mais avec des guillemets autour dans mes notes, parce qu'en fait, je sais pas qu'est-ce qu'elle dit dans ses chansons, parce que elle, évidemment, son saxophone, parce qu'on a, comme je dis, noise, post-punk, j'ai vu des thèmes comme du doom, jazz aussi, ce qu'on a peu entendu dans la chanson qu'on vient d'entendre, mais là, la prochaine, ça va varger un petit peu plus. C'est que, voilà, son saxophone, il y a beaucoup de pédales d'effet qui passent là-dedans. Puis des fois, ben, au lieu de chanter dans un micro comme quelqu'un de normal, elle chante dans le pavillon de son saxophone. Donc là où le son, il sort d'habitude, il y a un micro, qui est, petit micro qui est là. Elle a fait juste se mettre la face dans le saxophone, puis là, elle commence à chanter comme ça. Ce qui fait en sorte qu'on comprend vraiment un peu ce qu'elle dit, mais c'est plein de pédales d'effet, d'écho, de ci, de ça, de distorsion. Et ça rajoute, en fait, de la texture sonore, parce que de la voix, au final, oui, c'est qu'on peut communiquer des messages et des mots, mais on peut aussi juste faire des sons vraiment nice, tu sais. Donc, c'est ce qu'elle fait dans ce groupe-là. Surtout, également, il y a Jonathan Boulet, ou ça s'écrit Jonathan Boulet, je sais pas si d'origine peut-être francophone, peut-être que son père, quelque part, son grand-père vient de la francophonie, qui s'occupe principalement des percussions. Et l'affaire, c'est que tous les autres instruments du groupe sont joués par le groupe lui-même, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi qui est joué. On ne sait pas qui joue quoi, mais on sait que c'est eux autres qui jouent. Il y a des chansons, on entend évidemment de la guitare, on entend de la basse, on entend plein de sons qui vont un peu dans tous les sens. Et tout ça, eh bien, pour faire de la musique qui vache quand même beaucoup. Kirsty et Jonathan font de la musique, faisaient de la musique de façon séparée à la base, des projets qui étaient beaucoup plus doux. Mm-hmm. Mais là, voilà qu'ensemble, je sais pas, il y a une force, il y a un tsunami qui sort de cet album-là qui fait tellement, tellement du bien. Il y a des pièces un peu plus douces, on l'a entendu, Risky Behavior, comme c'est un groupe australien. D'ailleurs, Behavior s'écrit avec un U à Behavior, à la fin. Voilà, c'est pas l'écriture américaine, c'est l'écriture australienne. Mais également, il y a des chansons qui vargent. Personnellement, j'ai découvert le groupe et l'album via le blog Stereo Gum, qui est une de mes bibles. Comme directrice musicale, je suis constamment sur ce site-là, que je trouve extrêmement intéressant. Il avait nommé cet album-là comme étant l'album de la semaine un peu avant sa sortie. On comparait, entre autres, le groupe par moment à Death From Above 1979, gros groupe de noise punk canadien. Et également, des fois, parce que le saxophone, par moment, la façon qui est utilisée, la façon qui est traitée, peut avoir un son presque d'harmonica. Et on comparait ça au trame sonore d'Ennio Morricone, le grand réalisateur de musique qui a fait des bandes sonores pour des chefs-d'œuvre à gauche et à droite. Donc, il y a cette espèce d'ambiance-là qu'on crée dans des pièces. Il y en a évidemment où on voit la voix. Souvent, ce sont les chansons qui sont un peu plus rock dans lesquelles on retrouve ça. Il y a des chansons de l'autre côté qui sont un peu plus douces, un peu plus atmosphériques. Mais, règle générale, ça varge quand même beaucoup. Il y a la pièce The Worker qui est enregistrée pendant un spectacle, en fait, qui a été donné. Finalement, ils ont tellement aimé la performance telle qu'elle, qu'on dessus qu'elle mettait telle qu'elle sur l'album. Pas besoin de retourner en studio. On a donc cette énergie-là qui est derrière. Ça vient avec une ligne de basse absolument violente. Il y a un côté presque apocalyptique au travers de tout ça.
Est-ce que c'est une pièce qu'ils ont improvisée en spectacle ou c'est plutôt la version spectacle qu'ils ont gardée pour l'album?
Bien, évidemment, le groupe en spectacle joue avec des trames en arrière parce qu'ils sont deux dans le band. Puis, je sais pas si t'as déjà essayé de jouer de la guitare en même temps que de jouer du saxophone ou de la batterie. Moi, non. Et peu de gens l'ont fait parce que c'est très clair que ça ne fonctionne pas. Donc, il y a des trames derrière, mais le groupe, parfois, oui, va improviser au travers des trames. Il y a de l'improvisation sur cet album-là. Il y a d'autres chansons comme The Big Quit qui est très, très lourde, mais très très lente, surtout le saxophone aussi, la façon qui est traité, un son presque de tuba nucléaire. Ça va dans beaucoup de directions, mais ça reste un album qui est tellement bon à écouter. Moi, c'est mon coup de cœur, en fait, de l'été. Il y a d'autres albums que j'ai écoutés que j'ai beaucoup aimé aussi, mais ça, c'est vraiment une découverte, et c'est peut-être pour ça que ça vient plus me chercher, c'est que c'est nouveau, puis personne ne m'en avait parlé avant, donc j'ai vraiment l'impression que c'est à moi, cet album-là, tu sais.
Ton coup de cœur.
Ben c'est ça. Quand j'écoute ça, je pense pas à un ami, je pense pas à quelqu'un qui m'en a parlé. C'est moi qui ai découvert ça de par moi-même. Ce qui est vraiment chouette avec les blogs et les radios, c'est que tu découvres des affaires par là, puis après ça, tu peux les montrer à tes amis. Puis là, t'as l'air de la personne vraiment cool et vraiment branchée.
Qui connaît des trucs plutôt nichés. Donc, c'était l'album de la semaine de Stereogum, mais toi, c'était ton album de l'été.
Je pense que oui. Honnêtement, l'été n'est pas encore terminé, mais ça va être dur de battre, je pense, Party Dozen. Très contente que Stereogum m'ait fait découvrir parce que, évidemment, moi, je le vois un peu qu'est-ce qui joue dans les radios universitaires. J'ai accès à des statistiques, j'ai accès à des palmarès et j'ai l'air d'être un peu la seule qui pousse vraiment pour Party Dozen. Mais c'est parce que, évidemment, c'est un groupe australien aussi, donc on les connaît un peu moins ici. Mais ah, mon Dieu, que j'aime cet album-là et que j'écoute constamment. Parce que, voilà, sur l'album, c'est seulement Kirsty Tickle et Jonathan Boulet. Mm-hmm. Mais il y a une chanson sur laquelle on retrouve le grand Nick Cave, chanson qui s'appelle Maca the Mutt. Et en fait, Nick Cave, il arrive juste à la fin pour crier de même « I got a mutt named Maca ». Donc, j'ai un chien, puis je l'ai appelé Maca, qui est le surnom de Paul McCartney. Voilà. Donc, je sais pas comment ça s'est passé. Je sais pas si le Ben pratiquait en studio, puis le gars, il est juste rentré, il fait comme, hey, c'est bon ça, puis on dit, attends, tu crées quelque chose dans un micro, puis il a dit, OK, puis il a crié ça parce que c'est la première chose qui est venue par la tête.
Un accident musical, quoi.
Voilà, ben, je sais que la phrase était improvisée. Ils ont pas demandé explicitement, hey, on a écrit des paroles, on s'est assis pour écrire quelque chose de pertinent, veux-tu? C'est juste, je sais pas, il est juste sorti, il a juste gueulé ça, et ça s'est bien donné. Parce que Party Dozen, quand même, ou en Australie, ont quand même un bon... Ça se passe quand même. Il y a un bon following, comme on dit en anglais, ce qui fait en sorte que Nick Cave est déjà fan du groupe. Donc, tant qu'à ça, ben, on veut l'inviter parce que ça fait du sens. Et tant qu'à ça, peut-être pourrions-nous nous-mêmes
l'écouter, cette pièce.
Ah oui, puis ça marche, puis c'est bon, là. Ah, oh, je l'aime, celle-là.
Parfait. On s'en va donc écouter Maca the Mutt de Party Dozen. Coup de cœur estival d'Estelle.
Voilà.
Tout droit sorti de choc, mais qui est à Chiz 94.3. Ne vous méprenez pas. On poursuit donc Chérie, j'arrive avec Maca the Mutt. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive sur les ondes de Schiste 94.3 et je viens de découvrir avec vous Macadamot, une pièce de Party Dozen qui était la suggestion musicale estivale d'Estelle qui co-anime avec moi aujourd'hui.
As-tu plus senti le chaos et le post-punk dans celle-là?
Tout à fait.
Ça fait plus comme ça qu'est l'album. Il y a des pièces un peu plus douces, mais je voulais vous amener tranquillement vers les berges de Party Dozen.
Là, je comprends pourquoi tu as utilisé le qualificatif du
noise,
début.
Noise, post-punk, saxophone.
Voilà. Puis, j'ai aimé ça que Kirsty Tickle chante dans le saxophone sans qu'on puisse entendre les paroles. On se disait hors d'onde qu'on a du mal à mémoriser les paroles des chansons qu'on aime. C'est aussi mon cas. Puis, j'ai tendance à fredonner. Je fais la ligne de bass généralement en fredonnant. Fait que j'avais l'impression que c'est un peu ce qu'il faisait dans la toune. Ce qui fait que, en tout cas, moi, je peux fredonner cette absence de paroles sans problème.
Moi, même mes chansons préférées, je suis incapable de me souvenir des paroles, mais habituellement, je me souviens des voyelles.
Oh.
Je sais à peu près comment c'est, mais je sais pas les consonnes qui vont avec. Je vais voir mes artistes préférés en concert, je suis première rangée, j'ai le T-shirt. Je sais pas ce qu'a dit Charlie XCX dans sa toune, même si je l'ai écouté 100 millions de fois, puis que c'est la femme de ma vie, puis j'ai un kick sur elle absolument incroyable. T'sais. Je ne sais pas ce qu'a dit
On
dans sa toune.
On sait pas, mais t'as du fun.
Mais j'ai du fun à maudit, par contre.
Puis la pratique de Kirsty, ça me fait penser quand elle chante dans le saxophone. Cet été, à Carleton-sur-Mer, dans le cadre du festival Bleu Bleu, j'ai vu performer Emily Kahn, une harpiste qui, elle, se servait de la harpe comme d'une caisse de résonance pour chanter ses paroles aussi. Puis c'est la première fois que je voyais ça. Puis ça me fait penser à la pratique, finalement, de Kirsty dans son saxophone. C'est quelque chose qui donne un bel effet. Dans le cas d'Emily Kahn, on entendait assez bien les paroles. Par contre, là, c'était pas une façon de... C'était pas de la musique instrumentale, pas du tout. Mais ça, c'est là que ça m'a ramené un peu dans cette ambiance-là. J'aime quand l'instrument est utilisé d'une façon qui...
Une autre artiste qui fait bien ça, c'est Anne Nao, qui fait entre autres des voix pour Laurent San, qui a fait des trucs avec Lopel Gag aussi, avec Ambo Flebit à une certaine époque. Puis dans Laurent San, je le voyais très bien. Et vraiment, elle est là, elle a un espèce de chevalet devant elle avec plein de pédales d'effet comme on utiliserait avec une guitare, dans le fond. Puis au travers des chansons, va utiliser sa voix, ses pédales d'effet pour rajouter des textures dans les pièces. Donc, il n'est pas nécessairement là pour chanter. Des fois, oui, elle peut faire des chœurs en arrière, mais c'est souvent des affaires, des effets, des trucs. Finalement, ça sonne comme un oiseau qui siffle, ça sonne comme un chaos dans d'autres chansons. Il y a de l'écho, il y a du delay, il y a de la distorsion. Toutes ces choses-là, puis je trouve ça super intéressant, puis super impressionnant. Il y a des artistes qui vont juste gosser avec leur voix comme ça. Il y a Virginie B aussi que j'ai vu souvent faire ça, entre autres lorsqu'elle collabore avec Zella Edna et Yus Echo, quand elle collabore avec Superplage aussi, d'avoir justement toutes ces pédales d'effet-là, pouvoir contrôler la voix et finalement utiliser la voix comme un instrument de musique, comme une guitare par exemple qu'on utilise avec nombre de pédales d'effet.
Ouais. Merci Estelle pour cette découverte. Party Dozen va être ajoutée à ma liste de lecture. Alors
voilà, achetez ça dans le Jazzler. Dans votre discothèque si même. Achille, je peux vous l'envoyer l'album et que je revienne de vacances si vous voulez.
Guillaume Pepin, directeur musical, si tu es à l'écoute, cette demande t'est lancée. On en parle en réunion lundi. Pour le moment, on part en courte pause publicitaire. Au retour, on parle du parcours d'Estelle notamment. Alex Télamarche sera là pour sa chronique littéraire. Et surtout, à 17h15, on vous parle de la toute nouvelle programmation de la Fête arc-en-ciel qui a été dévoilée officiellement aujourd'hui. Ce sera du 1er au 11 septembre cette année. Donc, on a été habitué à une fête de 4 jours. Et là, cette année, on aura droit à 11 jours de festivités. Alors, la directrice générale Julie sera avec nous à 17h15 pour nous en glisser un petit mot. À tout de suite dans le cadre de Chérie, j'arrive!
Cet été, les capitales de Québec sont de retour sur les ondes de Schiste 94.3. Tous les matchs à domicile vous seront présentés sur le site web du schiste.ca. De plus, les matchs à domicile du jeudi au samedi vous seront aussi présentés sur les ondes du 94.3 FM. Cet été, Schiste 94.3 et les capitales forment une équipe gagnante.
Le Beatnik Show, la meilleure playlist de rap au Québec. Des talents locaux, des nouveautés, la crème du hip-hop québécois. Avec votre MC, Nick Leclerc.
Lundi, 18h30.
Au 94.3. Shiz.
Oh yeah, Shiz.
Pour le meilleur beat, Beatnik Show, man. Je te le dis, c'est malade.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
motherfuckers on the side. On reste positif, on garde le focus sur le prize.
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Depuis 25 ans, nous, on y passe à autre chose.
Ah yeah, yeah, ah yeah, yeah.
Chiz 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
Salut, ici Marjo, vous écoutez Chiz, oh pardon, Chiz. Bye.
Comme le dit Marjo, vous êtes à l'écoute de Chiz 94.3 et c'est la deuxième portion de Chérie j'arrive qui s'entame. On est là avec vous sur la route ou à la maison ou sur la terrasse jusqu'à 17h30. Donc Estelle de oui. Choc qui est toujours avec moi. Estelle, je vais te parler un petit peu de Québec. J'ai quelques bonnes nouvelles à souligner. Parfait. Pour Québec. Ça me réjouit, même si ce n'est pas exactement culturel. Pour tous les cyclistes de la ville, sachez que maintenant, vous pouvez vous adhérer à la plateforme web Garage 529, une plateforme qui vous permettra de tracer votre vélo s'il est volé. En tout cas, moi, je vais tracer le mien dès qu'il sera réparé. On se souvient que j'ai eu un petit incident de vélo il y a peu de temps. Il est donc inutilisable. Mais annuellement, c'est presque 500 vélos qui sont récupérés par le service de police de la ville oui. de Québec, mais qui ne peuvent être rapportés à leurs propriétaires puisqu'ils ne sont pas dûment identifiés. Et bien là, cet abonnement-là à Garage 529 va permettre de tracer les vélos. Alors, j'invite les propriétaires à enregistrer leur rutilante monture en ligne. Et ben une fois votre vélo volé, comme si c'était une étape et que ça allait se produire, une fois le vélo volé, vous pouvez signaler sa disparition et lancer une alerte. Une fois que l'SPVQ le retrouve, il pourra vous le rapporter en bonne et due forme. Alors voilà, c'est un nouveau partenariat avec Garage 529. Et ce partenariat-là a déjà lieu avec quand même plusieurs autres villes, fait qu'on avait hâte du côté de Québec que ça se concrétise. Voilà qui est chose faite.
Voilà. Est-ce que tu sais si à Montréal ça existe?
Je pense que tu peux le faire à Montréal.
Parfait. Je veux dire, ça s'applique pas à moi parce que j'utilise le Bixi de façon courante, mais je vais prendre note.
Rapporte la bonne nouvelle à tes concitoyens et concitoyennes.
Voilà, ma coloc a son vélo, j'allais dire.
Partageons cette bonne nouvelle. Et une nouvelle culturelle, si on veut bien aller à un autre sens du mot, du côté des urbains culteurs. C'est un organisme qui œuvre en sécurité alimentaire puis qui favorise la transition écologique, quand même bien implanté à Québec depuis un bout. On les connaît bien. Là, c'est l'entraide Patro de Charlebourg qui a eu droit à un nouveau potager collectif cette année. Puis c'est un potager qui est pédagogique aussi. Le projet se poursuit en 2023. Et pourquoi j'avais envie de saluer cette initiative, c'est qu'il y aura 3 bacs adaptés aux personnes à mobilité réduite dans le jardin à partir de 2023. Alors, je voulais saluer les copains copines de chez Urbain Culteur qui ont ce souci-là quand même d'inclusion et de transition. Donc, quand on parle de résilience alimentaire, ben c'est une résilience qui est pour tous et toutes. Alors, c'était mes charmantes félicitations pour Garage 529 et les Urbain Culteurs. On va poursuivre en musique avec une pièce, Estelle, dont je ne sais pas prononcer le titre. C'est-à-dire que, là, je parle d'une pièce de Calamine, que nous, d'un commun accord, nous aimons cet artiste. Et c'est la pièce Bad... Bitch 2 que je veux faire jouer ou Bad Butch 2, on sait pas, mais elle est censurée, hein, cette
bande. Voilà, c'est que, ben, c'est pas vraiment, je pense pas que c'est une censure autant que c'est une question d'ambiguïté parce que, en fait, c'est que le mot, c'est un B, et après ça, il y a un astérix, TCH. Mais dans la pièce, Calamine elle-même le dit, on n'est pas des Bad Bitch, on est des Bad Butch. Butch, qui est un terme qui est utilisé très fréquemment dans la communauté lesbienne pour parler de. Ces femmes saphiques qui ont un côté un peu plus androgyne. Calamine en fait partie, elle-même se décrit comme étant butch. Hein. C'est une personne qui porte qui a les cheveux rasés, la casquette parfois en salopette, en chandail oversize, en jeans. Donc Calamine, vous la verrez pas en maquillage et en petite robe à pois.
Lipstick et tout.
Voilà, donc c'est plus butch et donc c'est un des deux hymnes au Bad Butch qu'il y a sur cet album. C'est pourquoi ça s'appelle Bad Butch 2.
Elle récupère le mot en fait. Pour en changer un peu le sens. Là. Peut-être que c'est un mot que, qu'on cherche à transformer, à se réapproprier, Calamine?
Ça fait quand même longtemps que le mot butch est réapproprié dans la communauté. Ça fait plusieurs années. Un peu comme du côté des hommes homosexuels, il y a des termes aussi qui existent comme bear, littéralement un ours, tu sais. Twink, où là, c'est plus des hommes qui sont plus minces, qui sont plus... qui sont rasés, toutes ces choses-là. Bear, c'est plus des hommes un peu plus grands, un peu plus gros, un peu plus corpulents, un peu plus poilus. Donc, il y a cette chose-là qui existe dans la communauté gay. Dans la communauté lesbienne, on a... évidemment, ce sont des termes qui existent. On les prend, on les prend pas. Il y a des journées que je me sens plus butch moi-même, des journées que je le suis pas. Ce sont pas des absolus, mais butch, c'est un terme qui est utilisé très fréquemment dans la communauté pour parler justement de ces femmes qui sont très androgynes, qui portent un pantalon, qui vont porter un veston, souvent des cheveux très courts, voire rasés. Alors qu'il y a également ce qu'on appelle les lipstick lesbiennes, donc littéralement des lesbiennes avec du rouge à lèvres, où là, c'est plus des robes, c'est plus du maquillage, un peu comme moi en ce moment. Moi, je me suis chixé pour venir ici à l'émission, ce qui est vraiment niaiseux parce que c'est de la radio. Mais c'est comme ça que je me sentais aujourd'hui.
Excellent. Alors, pour Estelle, tout en beauté, on se fait plaisir avec une pièce de Calamine que vous prononcerez comme vous voulez, hein? Oui, Bad Bitch ou Bad Butch 2. C'est parti!
De gars, je fais pas dans la dentelle. Femme sur le mic que depuis longtemps on attendait. Ça manque de tonus, ils appellent ça une affaire de molle. Un tout mollusque, moi j'arrive comme une perle rare. Hyperactif, féminin, jamais la ménopause. Je pète le feu, puis on des chaleurs comme en ménopause. J'arrive au top, puis c'est pas pour ma paire de boules. Vent de fraîcheur dans le hood, toutes les rappeurs ont la chair de poule. J'emmerde folle de tout ce coin, c'est dans le stade phallique. Le joint de couche, ça sera bien le seul bat caliche. Sale bat trip, j'hallucine comme un tap. D'acide. Le game est un foutu jeu d'enfant comme les cartes magiques. Je les smoke en veulent encore, c'est comme la Nicorette. C'est un rat race sur des fausses cartes de bibliothèque. Ça joue du coude, je fais ma place sur l'étagère. Je me la joue ménagère, je lave les cerveaux comme à Nicolette. Je chie les textes comme un émollient. J'ai du sort dans la... Je les décape comme un exfoliant. Si t'aimes la lotion, t'en mets quatre couches. Y'a pas de bad bitch, j'essaie que des bad butch. Bébé. Ambigu comme un emoji. Quand on m'appelle monsieur, je suis pas émotif. Nage comme des eaux, je suis pas un goji. Puis c'est vraiment chill. Sentez-vous pas cheap comme ce qui est fait en Chine. Je suis pas un gratteux, pas besoin qu'on me valide. Je les vois venir de loin, c'est comme les cônes de la ville. Lourde, c'est mon poids stable, je pesais plus que trois stades. Le game est comme l'horaire de bus, genre trop pas trop stable. Je grince comme un vélo d'occasion. Je fais du cut avec vos cocardes. Bad butch, bébé, c'est mon vocab. Bon à tokeniser, je pense qu'ils ont aucune idée. On vient pour tout niquer, puis s'enlit dans la rocaille. On les fait shaker de nos hashtags. Mis des carrières au trash can, puis flusher l'eau du boy avec la sage-femme. Je me méfie des signes de pièces, ça les fait get wild. C'est comme les bad butch sur du cat mag. Spotty bad bitch, baby, say the bad butch. Spotty bad bitch, baby, say the bad butch. Spotty bad bitch, baby, say the bad butch. Spotty bad bitch, baby.
J'ai perdu mon temps. Compter les années. Tourner en rond. Dans un corps. Et puis ça sert à rien. Sans vouloir trop loin. Et ça sert à rien.
C'était Lumière avec La belle journée 1971 sur les ondes de Chiz 94.3 et vous êtes toujours à l'écoute de Chérie j'arrive. Et y a deux chéries hein, à l'animation
oui,
aujourd'hui.
Voilà.
Andréanne Desmal et Estelle.
Estelle Grignon.
Grignon. Ah, tu vois, je pense que je mémorisais même pas ton nom de famille.
C'est correct. Tu peux dire mon nom complet aussi, tu sais. Estelle Laura Jeanne d'Arc Bélanger Grignon.
Wow, c'est dit avec tellement de... d'attitude. J'aurais aimé que, que les studios soient filmés pour que les gens le voient.
Mais je pense que ça s'est transmis avec ma voix uniquement également.
Tout à fait. T'avais envie de parler de Lumière justement parce que toi, tu l'as reçu en entrevue du côté de Choc il n'y a pas si longtemps.
En fait, j'ai rejoint Lumière à la noce à Chicoutimi avec mon micro, avec mon enregistreuse. C'est d'ailleurs Émilie Rioux qui m'a aidé, qui m'a guidé vers Étienne et qui est Lumière. Une des raisons d'ailleurs pour laquelle son nom d'artiste c'est Lumière puis pas son vrai nom, c'est parce que ce sont tellement deux personnes différentes en fait. Étienne, c'est une personne qui est assez réservée. Quand tu lui parles, c'est une personne qui parle quand même assez doucement. Tu sais, qui s'énerve pas. Alors que sur scène, c'est une bête! Ça revole. Moi, pour vrai, j'ai tellement fait le saut. La première fois que j'ai entendu cette chanson-là, qui est en fait le premier extrait de son premier album, qui est sa première pièce, la première fois qu'on rentrait dans son univers solo, j'avais l'impression d'entendre un Mick Jagger québécois, alors que lorsque je l'ai rencontré dans sa loge, ben, il était beaucoup plus paisible,
posé.
Beaucoup plus doux. L'entrevue, d'ailleurs, qui est disponible sur le site de Choc, vous chercherez ça. Hein, sur choc.ca. Entrevue qui allait un peu dans tous les sens, parce que quand j'ai fait mes entrevues à la noce, j'avais pas tant de notes sur moi. J'étais comme advienne que pourra. On s'est mis à parler de la permanence des choses.
Wow.
On a parlé des tatouages, choses qu'il ne souhaite pas avoir parce qu'il a l'impression qu'il va tellement changer. Il a peur de. Tu sais, de pas être en contrôle de tes tatouages parce qu'ils sont déjà là, sont là pour la vie. Mais moi, personnellement, j'ai l'impression qu'un tatouage, c'est comme une cicatrice qui, contrairement à toutes les cicatrices que notre corps obtient d'année en année, c'est une cicatrice qu'on choisit. Donc, je trouve qu'on a un contrôle sur notre corps lorsqu'on se fait des tatouages. Je vous invite aussi, il aime pas les bagues d'envie pour différentes raisons. Donc, j'ai demandé si vous voulez se marier, puis c'était le gros turn-off de son côté. J'ai dit, bon. Au pire, tu te fais une bague en stick and poke, puis même ça. Non. Lumière n'a pas de tatouage en ce moment. Peut-être que notre discussion le fera réfléchir et que l'année prochaine, on le trouvera avec un beau tramp stamp dans le bas du dos. Mais d'ici là, je vous invite à aller retrouver notre entrevue et à aller vous abonner à la page de 4 barres en bas or, qui est mon tatoueur aussi. Fait de très bons tatous. Personne qui utilise des pronoms il et yel, installé dans le village à Montréal. Si vous passez par le coin, hein, sur Sainte-Catherine, vous irez vous faire tatouer de belles couleuvres de beaux papillons et de beaux petits monstres qui ont vaguement l'air d'une patate, comme celui que je me suis fait faire il y a de cela 2 semaines sur le bas de la cheville.
C'est drôle que tu parles en fait de Lumière qui n'aime pas les bagues parce que c'était lui le célébrant d'un couple d'amis qui s'est marié à la noce justement. Donc lui, enfin, il ne se mariera pas, mais c'est un excellent célébrant de mariage.
Tout à fait. Je pense qu'on peut être fan de mariage en général sans vouloir se marier. C'est la célébration. C'est le party. Moi, je regrette de ne pas m'être mariée pour les prêts et bourses parce que j'en avais parlé avec ma coloc à l'époque. Juste pour non seulement le party de mariage qu'on aurait pu faire, mais évidemment, comme c'est un mariage de prêts et bourses, évidemment, on se serait divorcé éventuellement. Et autant un party de mariage, ça doit être cool, un party de divorce, ça aurait été absolument délicieux.
Donc, on peut être fan de l'amour et parlant de fan d'amour et de musique, j'ai envie qu'on se lance avec une pièce de Julie et Dani. Julie Doiron, qu'on connaît, en fait, c'est leur projet de duo.
Oui, puis, avec Dani Placard.
Voilà. Moi, j'aime bien leur tone alimentaire. Il y a Tomate qui me fait triper, qui sonne un peu, bon, oui, comme du Gros Money, comme The Kills. En tout cas, il y a quelque chose que j'aime bien là, dans ce son-là. Et puis là, c'est une autre tone alimentaire que je vais vous offrir. Elle s'intitule Maillot sur les ondes de Chiz 94.3.
What? C'est bon.
1, 3, 4.
Y'a plus de maillot dans le fridge. Il reste plus grand espoir. Rien que corde dans le tiroir. Mes radios sur le compte.
vient d'entendre Maillot de Julie et Dani sur les ondes de Chiz 94.3. C'est Chérie, j'arrive qui se poursuit. Émission du retour à la maison tout en art et culture. Je suis toujours en studio avec Estelle Grignon, tout droit sortie de Montréal. Donc, c'est encore une collaboration Chiz et Choc. On la poursuit depuis que nous nous sommes rencontrés à Tadoussac.
Mais voilà.
C'est ce lien culturel qui se transforme en amitié au fil des festivals, disons-le. Et puis, Estelle, je t'ai vue partout cet été, mais je peux te lire aussi partout. Les auditoristes peuvent te trouver, enfin, dans différents médias, je crois.
J'ai fini mon bac en journalisme en 2018 et j'ai pas... Ma job à Choc, c'est comme ma première job à temps plein de journalisme que j'ai depuis, parce que sinon, tout ce que j'ai fait, c'est beaucoup de piges, ce qui fait en sorte que j'ai écrit énormément d'articles à l'époque dans Urbania Music, avant que Urbania Music décide pendant la pandémie qu'ils mettaient tous leurs pigistes dehors, puis après ça, je me suis rendu compte que j'étais un peu tanné de mettre autant d'efforts et d'énergie dans des articles où on me payait 50$ à l'article. Là, j'ai décidé que j'allais écrire dans le... Je me suis retrouvé à écrire des articles dans le Elle Québec où on me payait 750$ pour l'article, ce qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus amusant. Il est beaucoup plus prestigieux, mon Dieu. Tu sais, d'aller à la pharmacie acheter le magazine, puis là, tu l'ouvres, puis il y a toi, il y a ta face dedans. Un de mes articles, d'ailleurs, était traduit en anglais dans le Elle Canada. Et d'un côté, quand je l'ouvrais, d'un côté, il y avait moi avec ma photo où je parlais de mon expérience avec le maquillage. Et de l'autre, il y avait Hunter Schafer, actrice trans qui joue dans la série Euphoria. Donc... je suis vraiment contente de partager. Ben oui, mais mon Dieu! Mon Dieu! Sinon, j'ai écrit pour une couple de plages. J'écris beaucoup en ce moment pour Cube Musique. Je salue d'ailleurs Mélissa Pelletier, que je connais depuis mon époque où j'écrivais dans le Sortu et qui maintenant se retrouve à Cube et qui me demande assez souvent d'écrire des articles. Lorsque j'étais à la noce, j'ai écrit des articles avant et après. J'ai fait des retours sur quelques festivals. J'ai écrit un article tantôt que j'ai envoyé, qui sera probablement publié sous peu. Ben voilà, hein, sur le FME, j'ai écrit pour Balle Courbe aussi. J'ai fait une liste, en fait, à un moment donné, du plus beau chandail de l'histoire de chacune des équipes de la Ligue nationale, ce qui est vraiment extrêmement mon créneau d'envie. Sinon, bien évidemment, je fais de la radio à Choc, j'ai fait de la télévision aussi à une certaine époque, puis j'ai écrit une fois un essai qui s'est retrouvé dans un livre qui s'appelle « 11 brefs essais sur la beauté ». Voilà. Je sais pas comment expliquer ces choses-là. Une fois, j'ai rencontré une animatrice de radio que j'admire, qui est Eugénie Lépine-Blondeau, dans un festival. Et là, il y avait une autre personne avec moi qui m'a dit « Ah, ben Stel, dans le fond, toi, t'écris dans... C'est où déjà que t'écris? » Et un peu paniqué, j'ai juste tout...
déballer ton CV.
Dis ce que j'ai fait. Voilà. Je pense que ça... Je sais pas que moi, ça l'a impressionné, Eugénie, mais j'ai réussi à faire une chronique dans son émission cet été. Donc, j'imagine que ça devait pas avoir l'air si niaiseux, même si j'étais un peu nerveuse.
C'est là où ça t'a mené.
Ben voilà. Voilà. Ce n'est qu'un début, tout ça, mon Dieu.
Et tu me proposais, avant de recevoir Alex Télamarche pour la chronique littéraire, de passer en musique avec PNG. Tu avais une nouvelle triste à m'apprendre...
Ben oui, ben ça fait quand même quelques semaines que ça a été annoncé, oui. Pièce de Kerouac et Kodak Ludo, que cette pièce PNJ. PNJ qui veut dire personnage non-joueur. En anglais, on dit souvent l'expression NPC pour ça. Donc, c'est personnage dans des jeux vidéo avec lesquels tu joues pas. Lui-même, Kerouac, dans la chanson, là, je paraphrase, mais en gros, il dit « Je suis pas le héros, je suis juste un PNJ ». Kerouac et Kodak Ludo, donc, pour qui c'est la fin de cette collaboration qui dure depuis très longtemps. C'est le 7 septembre, c'est bien ça, qu'aura lieu leur dernier spectacle. Ça va être à Québec, à l'Impérial Bell. Moi, je vais pouvoir les voir une semaine ou deux avant à Montréal, parce qu'ils vont faire un spectacle là aussi. Spectacle qui va être assez impressionnant, je pense, les gradins. C'est pas juste deux gars sur scène qui font de la musique. Toute une mise en scène qui est là. Mais voilà, c'est la fin. Simplement parce que Kerouac, que lui-même a annoncé la fin, en fait, sur les médias sociaux, a indiqué qu'il voulait peut-être passer à autre chose. Je pense que c'est un grand fan de cinéma aussi, peut-être que c'est plus là-dedans qu'il veut se diriger. A dit qu'il prenait une pause, voire peut-être une retraite du rap, alors que Kodak Ludo, lui, va continuer de faire la musique. Kodak Ludo, lui, qui s'occupe de faire les trames musicales derrière. Aucune animosité entre les deux gars, tout se passe bien. C'est juste Kerouac avait besoin, je pense, de passer à autre chose, et c'est très correct aussi. On lui souhaite bonne chance à ce bon vieux Paul pour la suite des choses.
On s'offre donc la pièce PNJ de Kerouac, Kodak Ludo et compagnie.
« La voix dans ma tête me dit d'accrocher les patins. Vite comme une tortue, mais j'ai l'énergie du lapin. Je connais déjà la fin, mes mots vont disparaître comme si je rappais en latin. Arriper mon larynx, on écrira des poèmes dans les cendres de nos forêts. Si je tombe comme un arbre, est-ce que mes abonnés le sauraient? Mon cœur est en huis clos, fait pour les autres, je suis le mauvais. Je parle à voler, je parlerai, j'aurais peut-être besoin d'un cornet. Je remets en question mon talent et le cadran. Qu'est-ce que j'attends que les matins ne viennent pas trembler la banque à tout prix? Je suis pas néo, je suis plus léo quand ils surveillent la toupie. Je suis le chat et la souris, je suis le vase et le roupie. Je suis la salle et le movie, je suis le nerd et le boobie. Je suis la mauvaise, je suis le blaireau, le héros et le groupie. Je suis la mémoire éternelle et je suis le trou noir de l'oubli. L'équilibre et la folie, la cigale et la fourmi. Go.
Tired of your swipe, I can't take the shite. We don't have to play these games again. Je suis toi, tu es moi, baby. Pas de choix, ego got us crazy tonight.
Stop. J'ai arrêté de penser à l'absurdité de l'existence pour un court moment dans le club. La vie c'est un jeu, l'univers c'est Randolph. J'essaie de l'adoucir comme une clope au menthol. La game est mentale, alors quand je suis Albus dans la mine, je suis Gandalf. Je me divise en deux, je suis comme Jean-Claude Van Damme. J'expose mes talons d'Achille, je fais du rap en sandales. Comme c'est la manette, je me demande c'est qui. Même dans World of Warcraft, il y a des pandémies. Au final c'est le jeu qui est notre pire ennemi. Je suis pas le héros, je suis un PNJ.
Go, 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 go. Starting pop. Take a shot. You don't have to play these games again. Je suis toi, tu es moi, baby. Pas de choix. Ego got us crazy tonight. Tired of this fight. I can't pick a side. We don't have to play these games again. Je suis toi, tu es moi, baby. Pas de choix. Go bad as crazy tonight.
Je suis toi, tu es moi, baby. Je suis toi, tu es moi, baby. Je suis toi, tu es moi, baby. Je suis toi, ego got us crazy tonight.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
La semaine prochaine c'est good. Désolé j'ai pas d'expac depuis un bout. J'ai quelques regrets mais je reste debout.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied.
Tirez le balle frappée solidement par White du côté gauche, ouais. Circuit. Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. L'émission se poursuit jusqu'à 17h30 et on passe en mode littérature, ce qui me permet de vous signaler que notre invité d'hier, Lux, sera ce soir en prestation à Limoilou, 17h30 et 18h30. C'est à la librairie Morancy avec Christelle Briand. Si vous avez aimé cette entrevue, ben c'est le moment de voir cette personne performer. Mais pour le moment, sortons de la performance et passons dans le livre. C'est Alex Télamarche qui revient en ondes avec nous pour sa chronique littéraire. Bien le bonjour, Alex.
Bonjour à toutes les deux.
Tu te portes bien? Je vois que ton pied s'est remis.
Oui, ben pour les auditeurs qui ne le savaient pas, je m'étais fracassé le métatarse, au début de l'été et je peux maintenant circuler libre, plus de bottes orthopédiques et ça fait du bien.
Oui, j'ai vu Alex Claudiquier pour se rendre en studio tout l'été. C'est un bonheur de le voir sur deux pieds. Alors, on n'a pas de thématique là, spéciale 12 août nécessairement ce soir, mais il y a quand même deux livres québécois qui font partie de ta sélection du jour. Comme toujours, tu nous présentes trois ouvrages qui t'ont plu ou déplu. Nous verrons si tu les recommandes. Par quoi souhaites-tu commencer?
Oui, ben je me te dis, tu sais, c'est des lectures estivales, des choses qui se lisent bien pendant l'été, qui, bon, sont pas trop lourdes et qu'on peut emporter en en vacances. Et comme bon, on parle beaucoup de crise du logement ces jours-ci, que l'été, c'est la saison pour déménager, j'ai eu envie de commencer avec Jean Tréville, comment des quartiers deviennent inabordables, de Marie Sterlin et Antoine Trussard. Un ouvrage qui vous dira tout ce que vous voulez savoir sur la gentrification et qui fait surtout le pari de ne pas démoniser les acteurs de la gentrification.
Ouh là là, OK, gros pari. Mm-hmm. Est-ce que c'est un pari réussi?
Oui, c'est un pari réussi parce que, ben, au final, les gentrifieurs, c'est toi, c'est moi, c'est toi aussi. Ce sont des gens des classes moyennes qui aspirent à avoir une vie dans un quartier agréable où ils peuvent avoir une vie de quartier, des commerces de proximité. Et souvent, ben, ils vont investir dans un endroit où il y avait déjà quelques artistes qui s'étaient installés, quelques étudiants, quelques commerces qui avaient commencé à ouvrir. Et ben, ce faisant, ben, ils vont petit à petit changer l'ADN du quartier, amener des commerces de plus en plus riches à ouvrir, les anciennes petites shops à fermer, et ben, les loyers à augmenter, et ainsi, effectivement, amener la gentrification. Et donc, oui, dans certains cas, on peut voir le profil du gros méchant investisseur qui arrive et qui essaye de faire des flips immobiliers, mais la plupart du temps, le gentrifieur, eh bien, c'est monsieur, madame, tout le monde qui a juste envie d'avoir une vie de qualité dans un quartier comme Limoilou, Saint-Sauveur, ou si on se déplace du côté de Montréal, ben Hochelaga-Maisonneuve, Verdun, etc.
Donc, Jean Tréville, c'est un livre qui pourrait me faire remettre les choses en perspective et voir mes privilèges d'une autre façon, mettons.
Oui, et c'est ce qui est intéressant parce que, bon, on commence on se base sur le cas de Montréal, mais quand on le lit, on peut penser parfaitement à ce qui se passe à Québec parce que, bon, on y parle de ces quartiers ouvriers qui ouvrent au début du 20e siècle près des secteurs industriels, puis, ben, comment ils vont être abandonnés au milieu du 20e siècle avec l'arrivée de la sacro-sainte voiture et du rêve américain de la maison en banlieue, puis comment tranquillement, à partir des années 1970-80, des artistes, des étudiants les investissent et que, ben, petit à petit, ça devient des quartiers branchés. On y parle aussi du rôle que peuvent jouer les institutions et le gouvernement. Lorsque, ben, une compagnie comme Ubisoft s'installe dans le Mile End, ben, ça a un impact sur le quartier en y amenant effectivement des gens de l'économie du savoir, en y amenant, bon, des petits cafés où les gens vont pouvoir s'acheter un latte à l'avoine à 6 $ et ainsi de suite. Donc, on y voit que c'est pas un portrait, effectivement, qui est unilatéral avec d'un côté les méchants, d'un côté les gentils, mais que, bon, ben, au final, ça procède d'une volonté, bon, de créer du beau, de créer, en fait, des endroits où les gens vont être bien. Quand ils commencent à avoir des petits quartiers, des petits commerces sympathiques, ben, la ville, des fois, va se dire, ah, ben, tiens, on pourrait rajouter des lampadaires, ou ah, ben, tiens, on pourrait fermer la rue pendant la fin de semaine pour y faire des animations. Et, ben, tu crées un engrenage dans lequel, ben, au final, ils se ramassent de l'exclusion, les populations qui étaient là depuis longtemps, qui, ben, se retrouvent à ne plus être capables de payer le loyer qu'elles payaient depuis des décennies.
Eh bien, c'est un livre que je vais ajouter sur ma liste. Souvent, tes suggestions me parlent. Celle-là en particulier, d'autant plus que je sens que c'est une lecture qui pourrait me confronter. Je pense que je vais donc me lancer. Généralement, quand les lectures peuvent me confronter, ça me fait avancer, puis c'est ce que je préfère, les livres qui ne me laissent pas indifférente. Je pense que Jean Tréville pourrait remplir ce besoin d'être brassé. Merci pour cette suggestion qui est québécoise, n'est-ce pas?
Oui, c'est québécois. C'est de Marie Sterlin et Antoine Trussard, la première et conseillère d'arrondissement dans le district du Mile End à Montréal. Et le second, il a fait des études en journalisme et travaille aujourd'hui à Radio-Canada. Et on y parle effectivement vraiment de ce qui se passe à Montréal en donnant l'exemple de Verdun à de multiples reprises. Comment, ben, un hashtag comme Verdun Love, qui me fait penser un peu au Limois Love,
ben oui,
de Québec, à la base était créé pour, genre, conserver un petit peu cette unicité-là de Verdun, là, j'allais dire Limoilou, qui au final est un lapsus intéressant, mais qui a été pris par les commerçants, par les autorités municipales et qui tranquillement est devenu un outil de gentrification, alors qu'à la base, ben, c'était un outil de conservation de ce caractère authentique. Donc, il y a beaucoup de parallèles à faire avec les quartiers de Québec. Et j'étais à Chicago il y a 2 semaines et il y a même des parallèles à faire, effectivement, avec le quartier où j'étais, qui, bon, a connu son heure de gloire, a connu un déclin, puis là, il est en train de se regaillardir. Donc, un ouvrage qui est basé sur le cas de Montréal, mais qui traite la gentrification avec assez d'aisance pour qu'on puisse le voir un petit peu partout, peu importe la ville où vous résidez.
Chez nous également. Excellent. On sort de Québec pour se rendre du côté du Saguenay. Et oui. Là, pas de chicane, Lac-Saint-Jean-Saguenay, même si je viens du lac. Je suis contente de cette suggestion saguenéenne. Moi, il n'y a pas de chicane entre les tireux de roche d'un bord du lac puis je sais pas l'autre. Là.
Le 02 uni.
Voilà, région 02. Donc, on y va avec l'âge de l'eau cette fois-là.
Oui, l'âge de l'eau, chronique saguenéenne de Louis Savard. Louis Savard a longtemps enseigné la sociologie à l'Université Laval, si je ne m'abuse. Et il avait une famille qui est originaire du Saguenay, qui arrive dans la région au début du 20e siècle. Les Savard et les Blouin, si je ne m'abuse. Et cette famille-là, eh bien, il a eu envie de nous en parler dans cet ouvrage qui s'appelle L'âge de l'eau. Pourquoi l'âge de l'eau? Eh bien, parce que le Saguenay a été marqué selon Louis Savard, par trois âges. L'âge de la fourrure, qui est l'âge où bon, on explore la région, où on va chercher effectivement les fourrures aux Premières Nations, on fait des échanges. Puis il y a l'âge du bois, l'âge de la colonisation, l'âge où effectivement on défriche. Et au début du 20e siècle, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a plus tant de gros arbres que ça, qu'il reste plus en fait du petit bois qui peut être intéressant pour faire des pâtes et papier. Mais pour faire ça, on a besoin de beaucoup d'énergie. De l'énergie hydroélectrique, d'où l'âge de l'eau. Et ben, ça va amener aussi une entreprise comme Alcoa, l'aluminium, à s'installer dans la région. Pas parce que la bauxite, avec quoi on fait de l'aluminium, vient de là. Au contraire, on l'importe du Brésil, si je ne m'abuse, de nos jours. Mais parce que ben, l'électricité coûte tellement pas cher que ça vaut la peine de faire venir cette ressource-là de l'autre bout du monde pour la transformer ici. Et donc, ce que Louis Savard nous propose, c'est de découvrir l'histoire du Saguenay, de la région du Saguenay entre à peu près 1900 et 1960 en suivant sa famille.
Puis moi, tu vois, je suis allée à l'Odyssée des bâtisseurs cet été avec des amis qui présentent justement un peu cette odyssée-là de l'âge de l'eau au Saguenay puis au lac Saint-Jean. J'étais déçue qu'on parle pas des terres agricoles qui ont été inondées parce que l'histoire du lac, c'est un très beau et très grand lac, mais l'eau était pas toute là, tu sais, naturellement au départ, puis il y a vraiment des terres cultivables qui ont été perdues, puis c'est une grosse saga, puis il n'y en était pas question du tout au musée de l'eau, si je peux l'appeler comme ça. Puis ça m'a déçu que ce pan-là de l'histoire soit un peu caché, où j'avais envie d'apprendre là, sur ce côté-là un peu plus sombre de l'histoire de ma région. Est-ce que dans le livre de Louis Savard, L'âge de l'eau, on aborde ces terres-là qui ont été inondées, ces pertes-là de terres agricoles qui entourent l'histoire du lac Saint-Jean?
Non, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas non plus dans cet ouvrage parce que Louis Savard a vraiment fait le pari de suivre cinq de ses ancêtres et de voir comment, ben, dans plusieurs cas, ils partent de Québec, arrivent à Saguenay, se marient, ont des enfants, vont faire des études à distance, par exemple, au HEC, vont tranquillement gravir des échelons, vont subir aussi la crise économique. Et donc, on suit effectivement plus ces personnages-là. Dans certains cas, bon, il le mentionne lui-même, il s'est permis d'utiliser son imagination pour combler quelques informations qui manquaient. Ça, moi, ça me plaît un peu moins parce que je préfère que, bon, on le mentionne très clairement, ben, il est peut-être arrivé ceci ou peut-être cela. Même chose lorsqu'on imagine des discours que ces gens-là ont pu avoir, puis lorsqu'ils se rencontrent, puis ah, ben, il a dit ceci, il a dit cela, etc. Ben, qu'est-ce que t'en sais? Moi, je trouve que, bon, c'est une volonté de romancer un petit peu l'histoire qui, au final, ben, souvent l'amène à prendre un petit peu trop de liberté, puis que je trouve que Louis Savard aurait gagné à s'en tenir un petit peu plus aux faits, puis à coller un petit peu plus sur l'histoire familiale, parce que ses ancêtres ont quand même une histoire intéressante et permettent de mettre en valeur l'histoire de cette région-là, mais en prenant un petit peu de distance avec l'histoire, en imaginant certains bouts, en imaginant des dialogues, je trouve qu'on y perd un peu au change.
Ouais, petit bémol, là. Peut-être que la frontière entre la fiction et le documentaire est un peu trop poreuse pour cet ouvrage.
Ouais, après, il y a certaines personnes à qui ça plaît. Moi, c'est moins mon cas. Mais bon, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de cette région-là, comme les grands travaux qu'on a mis en place pour pallier effectivement la crise économique, la construction de l'hôtel de ville, refaire des rues, ce genre de choses-là, comment la Deuxième Guerre mondiale va aussi relancer l'économie régionale, ça peut être un livre intéressant. Mais il faut aimer effectivement quelque chose qui s'apparente un peu plus au roman historique.
Excellent. Et puis là, on s'en va dans quelque chose d'un peu... J'allais dire, ben pas romancé, mais roman d'enquête, quelque chose qui va un peu piquer la curiosité des lecteurs qui sont peut-être moins là, dans le documentaire là, linéaire.
Oui. Pourtant, on est dans le documentaire, mais on est, j'aurais envie de dire, dans quelque chose qui s'apparente presque à un épisode de Game of Thrones. Le fils secret du ver galant de Robert Muchembled. C'est un ouvrage sur un épisode de l'histoire de France qui est méconnu. On est en 1588, en pleine guerre de religion, et le prince de Condé se fait assassiner. Il est empoisonné. On va rapidement soupçonner sa femme d'être à l'origine de l'empoisonnement, mais finalement, il va avoir un procès et 8 ans plus tard, elle va être innocentée. Au moment, effectivement, où commence le procès, on se rend compte que sa femme est enceinte. Elle va donner naissance à un fils posthume.
Oh.
Mais ce que Robert Muchembled met de l'avant, c'est que le fils en question n'est peut-être pas le fils du mari assassiné, mais peut-être plutôt le fils de celui qui aurait commandité l'assassinat du mari. Nul autre que le futur Henri IV, le roi qui est derrière la fondation de Québec, qui va envoyer Samuel de Champlain. Donc, on est dans quelque chose qui ressemble presque à un roman policier où on a des coups, en fait, de poignards dans le dos, dans le contexte des guerres de religion où on a d'une part le parti des protestants, d'autre part le parti des catholiques, avec des familles de chaque côté qui essayent de tirer la couverte de leur côté pour avoir l'appui du roi ou au contraire de renverser le roi et d'en mettre un autre. Donc, on a vraiment effectivement toute cette ambiance et ça fait que même si on est dans quelque chose qui est quand même assez pointu, avec beaucoup de noms, eh bien, on est sur le bout de sa chaise parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'un tel, en fait, s'est mis le nez là-dedans, comment est-ce qu'une telle a séduit un tel, est-ce qu'elle était vraiment aussi jeune et naïve qu'elle le prétendait quand elle a commencé à séduire son futur mari. Et donc, on est vraiment, effectivement, dans ce genre d'histoire-là qui font le plaisir des gens qui, actuellement, suivent des séries, mais dans quelque chose qui est 100% vrai, qui s'est passé en France entre 1588 et 1596.
Un fait qui est tout à fait abracadabra, c'est Netflix avant le temps.
Oui, c'est Netflix avant le temps. Et c'est ce que j'ai aimé en lisant cet ouvrage-là, parce que ça nous permet de voir les côtés un peu plus sombres de la cour, comment est-ce qu'on peut commanditer un crime. Puis au final, de voir un petit peu les racines de la fronde, parce que sous Louis XIV, au milieu du 17e siècle, il va y avoir un groupe de nobles qui vont vouloir effectivement chasser le roi parce que le roi prend trop de place. Et celui qui va être à la tête de cette fronde-là, eh bien, c'est qui? C'est un fils de ce fils posthume-là qui avait été tassé, effectivement. Puis le fils posthume, on se rend compte que tranquillement, il va être protégé par le futur Henri IV, le roi qui est son papa. Puis il y a aussi, en fait, des histoires un petit peu de amoureuses. Il va essayer de lui mettre, de donner une jeune aristocrate comme femme à ce fils-là en se disant « Ah, ça va être facile de tasser comme c'est mon protégé, puis je vais pouvoir plus aisément coucher avec sa femme. » Mais devant, effectivement, son fils qui dit « Ben non, c'est ma femme, puis il n'est pas question que mon père naturel couche avec. » Eh bien, ils vont devoir fuir à l'étranger pour se protéger. Donc, c'était quelque chose qui se passait aussi à l'époque. Lorsqu'on avait une maîtresse et qu'on était roi, on se disait « Ah, tiens, je vais la marier avec tel gars qui est un peu... qui est peut-être soit homosexuel et qui donc touchera pas à sa femme, il va me la laisser. Ah, » Ou soit avec telle personne qui m'est redevable parce que je lui ai donné un poste intéressant. Et donc, c'est tous les rouages aussi de la cour qu'on découvre dans cet ouvrage qui suit cette affaire criminelle passionnante.
Eh bien, si toi, Alex, tu penses à Game of Thrones, moi, je pense à un épisode des Feux de l'amour. On a chacun nos références télévisuelles.
Voilà. C'est autant pour les fans d'histoire que les fans d'Occupation double.
Et voilà!
Il y a un peu de ça.
Un livre qui sait réunir ces deux univers. Merci, Alex, pour tes suggestions. On rappelle en rafale le titre des ouvrages que tu nous as présentés aujourd'hui.
Donc, Jean Triville, comment des quartiers deviennent inabordables, de Marie Sterline et Antoine Trussard, publié chez VLB Éditeur. Si vous voulez en apprendre plus sur ce qui est en train de se passer actuellement dans Saint-Sauveur, Limoilou et bientôt Vanier.
Bientôt Saint-Jean.
Exact. Saint-Jean, c'est quand même assez avancé.
Mm-hmm.
Et L'âge de l'eau, chronique saguenéenne de Louis Savard aux éditions Gide. Si vous voulez découvrir l'histoire de cette région qui est le Saguenay-Lac-Saint-Jean entre à peu près 1900 et 1960 via l'angle de deux familles, les Blouin et les Savard. Dans les deux premiers cas, on est dans des ouvrages québécois que je vous invite à acheter pour le 12 août. J'achète un livre québécois. Et dans le dernier cas, on n'est pas dans un ouvrage québécois, mais on est dans une véritable saga qui suit une une affaire criminelle, l'histoire de l'assassinat du prince de Condé en 1588 et la saga autour de son fils illégitime, de son fils qui ne serait pas lui, le fils secret du ver galant de Robert Muchembled, publié aux Belles Lettres si vous êtes un amateur de Game of Thrones ou des Feux de l'amour ou d'Histoire de France.
Il y en a pour tous les goûts. Merci encore une fois, Alex Télamanche, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
C'est un plaisir, puis bonne lecture à tous. Et profitez bien du 12 août aussi pour aller encourager les librairies indépendantes.
Merci. On va poursuivre en musique avec Perle Plastique, une pièce de Bless qui remplace le défunt Zen Bambou. Et le projet de Bless nous plaît beaucoup. On l'a vu en spectacle pour la première fois du côté de Val-d'Or, Estelle et moi. Alors, on se lance avec Perle Plastique sur les ondes de Schiste 94.3. D'entendre Perle Plastique, une chanson de Bless. Et on va passer en mode programmation festive. On s'en va rejoindre Julie Dubois qui est en direct là, du lancement de la programmation de la fête arc-en-ciel. Bonjour Julie, comment ça va?
Bonjour, ça va très bien.
On est content de te parler parce qu'écoute, la programmation était sous embargo quand on a commencé l'émission. Là, maintenant, je pense que c'est permis d'en parler sur les ondes. Alors, oui. C'est Vivre en couleur cette année. On a droit à 11 jours de festivités du 1er au 11 septembre. On est passé de 4 à 11 jours. Qu'est-ce qui se passe?
Mais en fait, depuis le départ, c'était censé être du 1er au 4 septembre parce que c'est toujours le premier week-end, là, le week-end de la fête du travail, là, à chaque année, la fête arc-en-ciel revient. Cette année, on a voulu fêter plus longtemps, on est en grand retour, donc on voulait allonger les festivités et ça permet aussi de pouvoir mettre toutes les activités partenaires dans notre programmation, là, donc plus ça va, plus des gens organisent des trucs là, comme des partenaires. Donc, ça nous permettait là, justement d'étirer les festivités et de pouvoir fêter plus longtemps. Donc, on s'est dit, du 1er au 4 septembre, là, on revient avec une édition là, plutôt normale là, en présentiel comme en 2019. Mais du 5 au 11 septembre, là, on y va avec une programmation allongée là, avec des conférences et des activités là, chez les partenaires.
OK. Donc, on voit ça vraiment en deux volets. Pour le premier volet là, du 1er au 4 septembre, c'est encore une fois au cœur du centre-ville qu'on va pouvoir assister à la plupart de vos activités, puis que les festivaliers et festivalières sont invités à se rassembler. Ça se déroule dans quel coin de la ville pour les gens qui n'apercevraient pas là, toutes ces couleurs-là normalement pendant la première fin de semaine de septembre?
Ben, en fait, ça, les deux endroits stratégiques, là, c'est la place Douville. Là, donc, on a les spectacles là, qui se déploient à la place Douville du 1er au 4 septembre. Donc, on a une soirée d'ouverture là, le 1er septembre qui est une soirée là, haute en couleur, là, donc avec plusieurs formes d'art. C'est comme un genre de gros 5 à 9. À ciel ouvert, donc les gens vont pouvoir se rassembler, festoyer, il va y avoir de la peinture, DJ, musique, donc c'est vraiment une belle soirée d'ouverture des festivités, là, ça après 2 ans de pandémie, il faut se rassembler et pouvoir jaser et célébrer tous ensemble. C'est suivi là, du vendredi soir là, d'un spectacle à la place Douville, là, donc avec les 3 personnes des communautés queer qui ont fait Star Academy, là, on parle ici de Julien, de Laurie et de Mathieu, donc ils vont faire la première partie du spectacle là, à grand déploiement à la place Douville le vendredi soir. Suivi de Marjou et ses invités. Donc, on a l'icône Marjou qui vient chanter là, avec Maxime Landry, Trana Wintour et Patti Galland là, qui vont venir faire des duos là, à la place Douville. Le samedi, le dimanche, c'est 2 soirs de spectacle de drag queen. On y va le samedi soir là, avec Rita Baga qui va venir animer Oh là là Canada. Donc, ça va être une soirée là, où on met en lumière les drags issues de Canada Drag Race. Donc, on parle de Juice Box, de Isis Couture, de Boa. Donc, on va avoir plusieurs drags qui sont ici de Canada Drag Race, qui vont venir à la place Douville. On parle aussi, l'autre lieu stratégique, c'est la rue Saint-Jean-Baptiste, qui est piétonnière le samedi, le dimanche, où on offre la journée communautaire et le marché des couleurs. On a des activités familiales, on a des kiosques, on a des organismes qui viennent présenter leurs services, les commerçants sortent, on a des terrasses. Donc, c'est de l'animation, là, les 2 journées festives là, sur la rue Saint-Jean. On attend vraiment beaucoup de monde, donc ça va être le moment de venir festoyer. Et bien naturellement, là, le dimanche, le 4 septembre, mais là, on part de la marche de solidarité qui part de la place Douville à 13h le dimanche 4 septembre. Donc, ça aussi, c'est un moment fort de la fête arc-en-ciel.
Mais ça n'arrête pas. Moi, je suis contente d'avoir vu Lady Boom Boom aussi sur la programmation que, personnellement, j'affectionne.
Oui.
Puis, je me rends compte que même s'il y a une portion très festive au début, il y a aussi quand même une porte d'activité de sensibilisation puis de démystification. J'ai l'impression que ça fait aussi partie de vos objectifs avec la fête arc-en-ciel.
Ben, en fait, c'est au cœur de la fête arc-en-ciel depuis ses tout débuts. Donc, nous, on est un organisme de défense de droits à la base. Donc, c'est assurément qu'il faut penser à une programmation, comme vous dites, le festive, mais on parle aussi de plein d'activités, là, de sensibilisation, de mobilisation, donc d'éducation populaire. On a une campagne de sensibilisation qui va sortir pour une 2e année, là, qui est Vivre en couleur, où on met en lumière, dans le fond, plein de visages des communautés pour continuer d'affirmer, dans le fond, son orientation, sa diversité de genre. Donc, oui, on a vraiment un volet de défense de droits, un effet mobilisateur dans notre festival, assurément. Là.
Donc, si je comprends bien, c'est pas un festival qui s'adresse uniquement aux membres de la communauté, mais ça peut s'adresser aussi à des alliés, à des gens qui peut-être, je sais pas, t'as un cousin, t'as un papa, maman, quelqu'un dans ta famille qui fait son coming out, t'essaies d'en apprendre plus, c'est ouvert à tout le monde. Là.
Oui, en fait, nous, on fonctionne tout le temps sous 2 volets. Oui, c'est le moment où les communautés se rassemblent, se mettent en lumière, mais c'est aussi le moment pour la population générale d'entrer en contact, d'entrer en communication avec les communautés, de venir fêter avec nous, de venir voir la belle diversité, la magnifique diversité. Donc oui, assurément qu'on attend toute la population, tous les citoyens, les familles. On a mis un effort spécial sur nos journées familiales le samedi, le dimanche, donc avec plein d'activités pour la famille. Donc oui, on attend vraiment à ce que la population générale, les citoyens, les citoyennes de la ville de Québec, là, puissent venir profiter de nos activités actuellement, là.
Puis pour l'exposition, je pense qu'on va pouvoir l'avoir dans les rues, en fait, de Québec, là. C'est ouvert à tous, c'est gratuit, complètement, c'est dehors, là.
Oui, c'est ça. Il y a comme 2 volets. Il y a le volet exposition là, qui va être du 1er au 15 septembre sur le pont d'Orchester en Basse-Ville. À partir du 15 septembre, elle va être à la place Douville. Ensuite, cette exposition-là, grandeur des grands panneaux, va se promener dans la ville de Québec. Mais on va aussi pouvoir l'apercevoir en affichage sauvage partout dans la ville de Québec là, à partir du 1er septembre. Puis aussi sur nos réseaux sociaux, nous avons aussi une belle capsule là, qui présente en fait la campagne, qui explique pourquoi cette campagne existe et on pourra pouvoir la visionner aussi en ligne. Là.
Est-ce qu'on a besoin de se garrocher sur des billets où la plupart là, de votre programmation est accessible à peu près gratuitement pour les familles, notamment? Il y a pas mal de choses qui se passent dehors. C'est quoi notre budget là, pour la fête arc-en-ciel?
Ben, en fait, pratiquement toutes nos activités, dans le fond, ils sont gratuites. Toutes celles qui sont organisées à la place Douville, qui sont organisées sur la rue Saint-Jean, tout ça, c'est gratuit. Il y a quelques activités partenaires qui sont payantes. Sinon, c'est vraiment accessible. Donc, vous pouvez venir, ça coûte rien. On est là, on présente nos activités, c'est accessible à tous. C'est ça l'idée là, de pouvoir justement accueillir tout le monde à notre. Puis aussi, le réseau de transport se rend jusqu'à la place Douville, se rend sur la rue Saint-Jean. Donc, oui, assurément que c'est ouvert et accessible à tous. C'est vraiment quelques minutes d'activités là, chez les partenaires qui sont payantes. dirais, de se garrocher sur les billets pour les conférences, la série de conférences qu'on va avoir du 5 au 9 septembre au Moyen Center. Il y a quand même des places limitées. Ça coûte rien, mais il faut quand même se procurer un billet là, pour s'assurer du nombre. Il y a souvent 15 places parfois, puis ça va être des conférences très, très intéressantes. Donc, ça, c'est sûr que ceux qui sont intéressés par les conférences, oui, il faut se procurer des billets là, rapidement.
Être un peu plus vite sur le clic pour ce qui est de l'information. C'est tout à votre honneur que ce soit autant inclusif, en tout cas dans tous les sens du terme, des activités gratuites. C'est vrai que tout le monde est bienvenu, là, peu importe son statut social, ça c'est génial. C'est vraiment votre honneur à
souligner. Il y a tellement de membres aussi de la communauté qui sont dans des situations très précaires. Fait que de pouvoir gratuitement aller voir des Rita Baga et aller voir, mon Dieu, Marjo et ses amis, quel baume!
Oui. Bien, on travaille fort. Hein. On est un organisme de défense de droits à la base. Donc, pour nous, c'est vraiment partie de notre ADN de pouvoir offrir ces là justement, de manière gratuite. Donc, c'est nous qui devons se relever les manches pour pouvoir... Donc, c'est ça, dans le fond, à nos hospitaliers, on a de magnifiques partenaires aussi qui nous aident beaucoup à être capables de livrer tout ça. Là. Mais oui, assurément, ça a fait notre fierté de pouvoir offrir ça à tout le monde.
Mais Julie Dubois, un gros merci d'avoir été avec nous pour nous parler de la programmation de la Fête arc-en-ciel de Québec. Je rappelle aux gens que ça commence le 1er septembre jusqu'au 11. Je pense qu'on peut se joindre à vous là, ce soir pour... Il y a une fête là, post-dévoilement de la programmation, si je ne me trompe pas.
Oui, pour la première fois, il y a un after qu'on appelle. Donc, si on peut se présenter là, sur les réseaux sociaux là, pour ça. Cette fois-ci, il faut acheter des billets, là, mais parce qu'il y a des places limitées aussi. Là, mais oui, on peut se rendre là, pour venir festoyer avec nous là, dans notre after Fête arc-en-ciel du lancement de la programmation ce soir. Là, il reste des places en studio. Donc, oui, allez cliquer et venez nous rejoindre ce soir.
Un gros merci encore. C'était Julie Dubois, directrice générale d'Alliance Arc-en-Ciel. On invite tous les citoyens et citoyennes de Québec à venir célébrer ensemble avec cette programmation. Je ne veux pas faire de jeu de mots, mais haute en couleur. Merci, Julie.
Merci, bonne fin de journée.
Et c'est déjà, Estelle, ce qui clôt pour nous cette édition de Chérie, j'arrive!
Mais ça a passé comme un coup de vent.
En collaboration spéciale Chiz et Choc, qu'on peut appeler Chic Chose quand Chic on Chose. Mêle le nom de nos
Exactement.
Deux radios ensemble. C'est cette alliance Québec-Montréal qui se conclut en ce jeudi 11 août 17h30.
Qui se poursuit, en fait, cette alliance-là.
Poursuit.
C'est pas fini, là.
Non, Estelle et moi, nous allons nous reparler fréquemment dans le cadre de Chérie, j'arrive. Je vous tiens au courant, chers auditeuristes. Alors, je vous invite à vous procurer un livre québécois pour le 12 août, cette journée où nous achetons un livre québécois. De mon côté, je pense acheter Caroline Fouché, qui sort une pièce de théâtre qu'on pourra voir aussi à l'abordé. Et j'aimerais m'offrir Jean Triville, dont Alex Télamarche nous a parlé dans sa chronique littéraire. J'aimerais remercier Julie Dubois, qui était là dans le cadre de la Fête arc-en-ciel du 1er au 11 septembre, célébrer la diversité de façon gratuite dans les rues de Québec. J'espère vous y voir en grand nombre. Estelle, qui est en vacances, je te remercie d'avoir co-animé cette émission avec moi.
Tellement plaisir, mon Dieu, réinvite-moi quand tu veux. Ben quand tu veux, puis que je suis à Québec.
Puis que t'es à Québec.
Voilà.
Ben, bonheur partagé, c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un en studio, surtout si c'est quelqu'un, c'est toi. Merci pour tes découvertes musicales, ça m'a bien plu. On vous rappelle que vous pouvez écouter Party Dozen, ce groupe avec ses qualificatifs saxophone, néo-punk.
Noise, post-punk, saxophone.
Voilà, donc Party Dozen qui était le coup de cœur d'Estelle.